Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. On est dans l'émission La Voix est libre avec aujourd'hui Stéphane et Tobias de Picassoft.
Bonjour.
Bonjour.
Et on va parler d'OpenStreetMap ou comment s'approprier son territoire. Alors pour nous en parler, on a reçu il y a quelques jours Cédric Fraissinet qui ne peut pas être là aujourd'hui, donc on va vous diffuser l'interview préenregistrée et on revient juste après pour continuer la discussion. Alors bonjour Cédric, merci beaucoup d'accepter de nous répondre. Donc tu es prof dans un lycée dans une autre province française, c'est prof qu'on commence déjà avec une émission nationale, et tu es chargé de mission à la DAN, donc la délégation académique au numérique et éducatif. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Bien, bonjour à toi. Eh bien, je suis en fait prof de lycée à Lyon, au lycée Lamartinière Diderot, et je suis enseignant en STI2D et en spécialité informatique et sciences du numérique, donc en terminale S, que certains connaîtront de vos auditeurs. Alors du coup, je suis également formateur académique au numérique, donc j'ai en fait un mi-temps, je suis chargé de cours à mi-temps. Et dans ce cadre-là, en fait, je gère des projets liés au numérique éducatif et je fais des formations, la plupart sur des logiciels libres. Voilà.
Ah bah, super.
C'est ce que je fais dans mon métier.
Ça colle pas mal avec, avec le thème de l'émission. Et justement, à propos de logiciels libres, tu viens de donner une interview au journal en ligne LinuxFR, donc accessible à l'adresse linuxfr.org, et tu te présentes en tant que contributeur à OpenStreetMap. Et première question, qu'est-ce que c'est OpenStreetMap ? Et dans la foulée, qu'est-ce que ça veut dire que tu es contributeur d'OpenStreetMap ?
Alors, c'est un vaste sujet que tu me demandes là. Donc, OpenStreetMap, c'est une carte collaborative du monde. En fait, en 2004, il y a un ingénieur anglais qui en avait marre de payer pour avoir des cartes. Et il s'est dit, ben, moi, je vais redessiner le monde. Et donc, en 2004, il est parti d'une copie blanche. Et il a demandé de l'aide et tout le monde s'est mis à dessiner le monde petit à petit avec des imports successifs au démarrage. Et puis progressivement, en fait, c'est les petites fourmis qui sont les contributeurs dont je fais partie qui ont dessiné le monde point après point, ligne après ligne et polygone après polygone. Voilà les trois types de choses que l'on dessine en fait sur OpenStreetMap. Et ensuite, donc, quand on en contribue, donc, outre le fait qu'on dessine ces polygones, on renseigne en fait cette base de données, qui est une base de données en libre accès, pour donc c'est ce qu'on appelle une licence ouverte, donc elle a une licence ouverte. Tout le monde peut réutiliser ces données, y compris les entreprises, pour faire du business. Donc voilà, c'est le cas par exemple de Quant, qui va lancer progressivement Quant Maps, qui va arriver bientôt sur le marché. Voilà, pour concurrencer Google Maps.
Bah super, c'est dans le thème. En plus, la semaine dernière, on a parlé des moteurs de recherche alternatifs. Donc, voilà encore un projet un peu cross-univers. Donc, de ce que tu as dit, on peut se dire qu'OpenStreetMap, c'est un peu le Wikipédia de la cartographie, puisque à la base, ça part d'un projet où là, c'est quasiment blanc et tout le monde vient apporter sa pierre à l'édifice. Donc, chacun peut y ajouter des précisions quant au territoire qu'il parcourt ou qu'il ne connaît. Déjà, est-ce que on peut préciser quelques exemples concrets. Je veux dire, moi, si je veux ajouter mon resto préféré ou l'adresse d'un super libraire ou même l'endroit où se trouvent les locaux de Graphite où on enregistre, est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut ? Et aussi, est-ce qu'il y a besoin de compétences techniques pour le faire ? Parce que souvent, on s'imagine que la cartographie, c'est quand même réservé à un public un peu d'experts, que c'est pas évident de cartographier des choses ou qu'il faut peut-être avoir des connaissances en informatique.
Alors c'est là où justement c'est intéressant, tu me poses la question, parce que comme je vais faire un peu de cartographie avec mes élèves l'an prochain dans le cadre de la réforme du lycée, j'y reviendrai peut-être après. Il y a maintenant des applications en fait qui permettent de contribuer très facilement, un peu comme une chasse aux Pokémon. certains des auditeurs connaissent Pokémon Go. Et bien là en fait on a le même type d'application qui s'appelle Street Complete, donc en bon français. Qui est une application Android par contre uniquement, et donc là en fait on a des quêtes. Par exemple, si on passe devant un magasin où il n'y a pas les horaires d'ouverture qui sont renseignés, il y a une petite icône qui apparaît, on clique sur l'icône et on renseigne immédiatement donc les horaires d'ouverture. Donc ça marche, donc il y a un certain nombre, il y a une 30 ou 40 quêtes possibles comme ça, les parkings, les boîtes aux lettres, les levées, le nom des routes, il y a un certain nombre de choses à renseigner, donc c'est très ludique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est très facile pour y rentrer dedans, puisque du coup, c'est juste du clic et se balader dans la rue, en fait. Donc ça, c'est la première méthode pour contribuer. Ensuite, si effectivement tu veux renseigner ton restaurant préféré, eh bien, il n'y a pas de souci, tu renseignes ton restaurant, personne ne va te l'interdire, personne ne va te dire il ne faut pas le faire. En fait, la seule restriction, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de données personnelles, donc dans PostalMap.
D'accord.
Il ne faut pas de données nominatives également, donc tu ne mets pas, voilà, il habite ici, c'est lui qui habite là, etc.
Ok.
Il y a également d'autres particularités telles que ben, il faut que les données ne soient pas ponctuelles dans le temps. Donc en fait, c'est quelque... la cartographie, cartographie, ce sont des données géographiques. Donc il faut que ce soit en fait pérenne dans le temps. Et dernier cas, c'est qu'il ne faut pas que ce soit copié depuis des cartes non libres, telles que Google Maps, par exemple.
Mais justement,
en fait, il faut que ce soit créé, voilà.
En parlant de Google Maps, bon, c'est bien sympa, on se dit tout le monde est en train de renseigner des informations, mais qui existent probablement déjà dans Google Maps. C'est-à-dire que bon, bah, non, voilà, dans Google Maps, on a les horaires des magasins, on peut trouver où sont les libraires de Compiègne ou de Lyon. Finalement, qu'est-ce que ça apporte de plus OpenStreetMap par rapport à un projet comme Google Maps?
Alors, donc déjà... sur un certain nombre d'informations, donc on est beaucoup plus précis sur OpenStreetMap, notamment en ville, parce qu'en fait c'est là où on va recenser le plus de contributeurs. Il y a également au niveau des routes, etc., parce que nous, en fait, on rajoute également le revêtement des routes. Donc un GPS, nous, il ne nous fera jamais passer sur des routes en terre, par exemple. Ça, c'est des choses que j'ai déjà eu à tester. Parce qu'en fait, on met en concurrence avec ma femme nos deux GPS et du coup, on se retrouve dans des situations déjà des fois un petit peu délicates. Et donc, c'est voilà. Donc, Google m'a déjà fait passer sur des routes un peu bizarres, alors que j'ai jamais eu ça avec OpenStreetMap. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également, je sais pas moi, par exemple, pour le recyclage de verre, de vêtements, etc. On a tous les points de recyclage donc dans les villes, ce que Google Maps ne propose pas. On a les boîtes postales, à quelle heure on relève le courrier. Google Maps ne le propose pas. Enfin, je pourrais te citer énormément de choses. On a aussi des cartes issues de Google Maps qui recensent les restos végétariens, les restos véganes. On a également des cartes thématiques liées à l'accessibilité. En fauteuil roulant, par exemple, à mobilité réduite. Où là, on sait précisément si cette toilette publique est accessible, si ce restaurant est accessible, si ce magasin est accessible, etc. C'est d'ailleurs tellement important que QuantMaps, donc il va sortir, comme je l'ai déjà dit, le recense, en fait, quand on clique sur le restaurant, il dit si c'est accessible, partiellement accessible ou pas du tout accessible au fauteuil roulant.
D'accord.
Je suis pas sûr que Google Maps le propose.
Effectivement, ça, je pense qu'on y reviendra, mais la diversité des informations est assez énorme. Vu que chacun est libre de rajouter les champs qu'il veut et de contribuer sur les aspects qui l'intéressent. D'ailleurs, en parlant de diversité, j'y pense. Je crois qu'un reproche qu'on fait à Google Maps, c'est qu'il y a certaines zones dans le monde qui sont assez mal cartographiées, alors que des contributeurs OpenStreetMap essayent de cartographier à partir d'images GPS, par exemple des zones de conflit ou des zones pas très peuplées, mais où c'est important de pouvoir savoir où est la route pour pouvoir, je sais pas, amener des secours, de l'eau, ce genre de choses, non?
Ouais, alors oui, il y a toute une composante OpenStreetMap en fait qui est liée donc aux ONG. Et donc quand il y a des cyclones, des tremblements de terre à l'autre coin du monde, en fait, il y a une structure liée à OpenStreetMap qui s'appelle HOT, qui en fait émet des tâches et en fait tous les contributeurs en fait s'activent pour aller cartographier ce coin du monde. À l'aide d'images satellites récentes, etc. Et donc pour retracer en fait rapidement les chemins accessibles pour que les ONG accèdent plus rapidement aux zones soit de conflit ou soit de problèmes. Donc ça c'est quelque chose également qui est très lié à OpenStreetMap. Donc on fait ça sur OpenStreetMap, effectivement.
Ok. Bon, j'ai cru lire dans ton interview que tu proposais des animations autour d'OpenStreetMap pour apprendre à le faire connaître et à l'utiliser. Nous, on va bientôt animer avec Picasoft un contrib atelier autour d'OpenStreetMap. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils qu'on pourrait suivre?
Alors du coup, ça c'est donc les animations que j'ai faites. Là, c'était en lien avec la réforme du collège, du lycée. En seconde, en fait, on a une nouvelle matière qui arrive, qui est obligatoire pour toutes les secondes qui vont arriver l'an prochain. s'appelle Sciences et, du numérique et technologie. Et donc, dans cette nouvelle matière, donc, il y a le thème numéro 5 qui est localisation et cartographie. Et donc, il y a une compétence attendue qui se nomme donc contribuer collaborativement au OpenStreetMap. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là en fait, que j'ai animé les formations. Et donc, on est en train de former 300 profs sur l'Académie de Lyon. Enfin, former, c'est un grand mot, informer sur notamment OpenStreetMap pour qu'ils puissent travailler avec OpenStreetMap et leurs élèves. Des conseils, j'en ai pas forcément beaucoup. En fait, il y a besoin de ressources sur Internet. J'ai, moi, assez des documents, en fait, à destination des stagiaires et des enseignants. De toute façon, l'entrée ludique, je l'ai dit, c'est complète. Ensuite, quand on veut passer au-dessus, en fait, on va utiliser un navigateur et utiliser donc l'éditeur ID, qui est directement intégré à la carte OpenStreetMap.org. Alors, le reproche que l'on fait souvent à OpenStreetMap, c'est cette carte OpenStreetMap.org qui n'est pas forcément hyper intuitive, c'est-à-dire la recherche, elle n'est pas pertinente par rapport à Google Maps, et ça, c'est un fait. Donc, c'est lié à plusieurs choses. Mais par exemple, quand on va sur Quant Maps notamment, eh bien là, la recherche est autrement plus performante et donc on arrive à avoir des. On se rapproche du niveau de recherche de Google. Voilà, alors du coup, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question ou partiellement. Ou...
Si, si, complètement. Et puis tu as soulevé plein de points intéressants qu'on abordera dans la suite de l'émission, à savoir le fait qu'il y ait plusieurs manières de discuter avec la base de données d'OpenStreetMap, plusieurs manières de présenter les choses. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses éclairantes.
Merci à vous de m'avoir contacté et puis bonne animation sur OpenStreetMap.
Voilà, de retour sur Graphite 94.9. On remercie évidemment Cédric de nous avoir accordé son temps et de nous avoir introduit OpenStreetMap. Maintenant, je crois que Stéphane va passer un petit peu au contenu. Tu vas lui être le maître du contenu.
À la séance de questions. Première question, effectivement, on a eu quand même un panorama assez large, donc il y a des points qu'on va reprendre, peut-être compléter un petit peu. Pour commencer, peut-être qu'on peut, je crois que c'est Tobias qui va nous refaire ça, refaire un point rapide sur ce à quoi sert OpenStreetMap pour les citoyens, pour les utilisateurs. On a un peu plus parlé de contribution, mais en tant que simple utilisateur, est-ce que ça nous sert à trouver des endroits, des points d'intérêt, des itinéraires, préparer des randos, enfin voilà, à quoi ça nous sert concrètement OpenStreetMap?
Voilà, moi j'ai découvert OpenStreetMap il y a déjà 6 ou 7 ans et c'est vrai que j'étais curieux de ce service-là, notamment effectivement pour préparer mes itinéraires. J'ai tendance à faire beaucoup de randonnées et j'étais curieux de voir si je serais capable d'utiliser ce service pour le créer. Et effectivement, au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'OpenStreetMap gagne énormément en précision, qu'en plus, l'affichage sur OpenStreetMap est très clair, il y a énormément d'informations, donc on peut à la fois l'utiliser pour chercher à se déplacer comme avec un GPS, on peut l'utiliser pour trouver des magasins, des choses comme ça, ou pour des coins un peu plus reculés, pour aller faire de la randonnée en marche à pied ou n'importe quoi, donc c'est un service qui est mine de rien assez complet.
Tu as dit que ça s'était amélioré au cours du temps. Là, t'as une perspective de plusieurs années. On a parlé tout à l'heure avec Cédric de contribution. Et donc, il y a, je pense, un lien entre les deux. C'est-à-dire que l'ensemble des contributions qui ont été faites au cours des années ont permis d'améliorer la cartographie du territoire donc, qu'on utilise. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? On en a eu quelques pistes, mais concrètement, aujourd'hui, si je suis, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à OpenStreetMap?
Donc effectivement, Cédric a quand même brossé un panel assez large des méthodes de contribution possibles. Donc il a présenté au tout début l'application Street Complete qui est très amusante. Moi de mon côté, en fait, j'ai commencé tout bêtement par me dire est-ce que le numéro de ma maison est, enfin est-ce que l'adresse de ma maison est bien renseignée, des choses comme ça. Et donc pour pouvoir contribuer là-dedans, il nous suffit d'aller se créer un compte sur OpenStreetMap, utiliser l'éditeur en ligne qui est très bien fait avec un tutoriel qui fonctionne parfaitement. Et donc, j'ai commencé à rentrer des petites infos, des toutes petites infos là où je voyais des petits manquements sur mon environnement proche. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, on découvre un nombre assez. On découvre énormément de manières de contribuer. Et notamment au travers de, d'autres services spécialisés dans certains types de contributions, comme l'accessibilité, comme l'orientation des toits pour l'orientation solaire ou des choses comme ça.
Ouais, des choses dont on a parlé tout à l'heure. Là, effectivement, le premier niveau de contribution, hein, je pense qu'effectivement, c'est également comme ça que j'ai démarré, hein, ma maison, le petit commerce à côté, etc., dans le village. Ça permet de repérer les points d'intérêt à partir donc directement de l'interface web. Et c'est vraiment super facile à faire. On incite tout le monde à se lancer. Il y a un autre aspect, c'est aussi qu'on peut, je crois, tu vas peut-être nous donner quelques mots là-dessus, utiliser un GPS pour tracer des chemins qui n'existent pas dans une forêt, par exemple, enfin qui sont mal repérés au niveau de sentiers ou de choses comme ça.
Effectivement, c'est-à-dire que si après vous êtes un peu plus habitué et que vous possédez un GPS, vous pouvez tout à fait aller faire une sortie en vélo ou à pied ou n'importe comment en embarquant un GPS. Et donc là, vous allez enregistrer tous vos déplacements que vous aurez fait avec ça, que vous pourrez ensuite envoyer directement sur OpenStreetMap. Et c'est ce qui permet notamment d'avoir une cartographie précise de beaucoup de chemins dans les forêts, dans des lieux qui sont de toute façon pas accessibles en voiture, par exemple.
On a évoqué également dans la première partie de l'émission les avantages, on va dire, et un peu inconvénients comparés de Google Maps et de OpenStreetMap. On aura l'occasion de peut-être d'y revenir un petit peu. Moi, je voudrais revenir sur cette notion de cartographie libre, de carte libre, de données libres. Peut-être là, Quentin, tu veux, avec ta casquette de président de Picassoft, nous expliquer pourquoi, même si Google Maps est gratuit ou paraît gratuit, bah, en fait, c'est pas libre. Pourquoi c'est pas pareil, libre et gratuit? À quoi ça sert d'avoir des données libres? Peut-être aussi, voilà, enfin, bon, voilà, j'ai assez brossé le cadre de la question. Je crois que tu vois où je veux en venir.
Alors, absolument. Bon, je vais peut-être donner quelques éléments de réponse qui seront quand même des poncifs du logiciel libre en général. Effectivement, comme tu l'as dit, comme vous l'avez rappelé, gratuit, ça ne veut pas forcément dire libre. Donc, effectivement, Google Maps, c'est gratuit au sens pécunier. C'est-à-dire que voilà, vous ne payez pas de service en tant que particulier, mais bon, on ne va pas revenir très longtemps là-dessus. Bien sûr, vous le payez avec vos données. Et aussi, comme les données ne sont pas libres, eh bien, vous ne pouvez pas les récupérer ou les exploiter pour, par exemple, ouvrir un nouveau service ou héberger vos propres serveurs, comme on a parlé dans la première émission de cartographie. Et bah, ça a déjà été un problème, je ne sais pas si on y reviendra après, mais pour certaines entreprises qui utilisaient les services de Google Maps en les intégrant sur leur propre site web et qui ont vu des coûts astronomiques augmenter à un moment et qui ont presque dû, pour certaines, fermer boutique. Alors que, évidemment, pour OpenStreetMap, qui est un service libre, eh bien, même si les coûts existent et ne sont pas toujours négligeables, il est tout de même possible d'héberger son propre serveur avec une copie de l'ensemble des données d'OpenStreetMap, ce qui constitue quand même une liberté et une indépendance qui est tout à fait souhaitable. Surtout.
On retrouve ici des sujets qu'on a déjà abordés, cette question de diversité, de monopole, c'est-à-dire que dans le cas de Google Maps, eh bien, c'est Google qui offre le service. En quelque sorte, si son marché est captif, ses utilisateurs sont captifs, il peut décider des conditions d'utilisation, que ce soit au niveau des données, au niveau financier. En revanche, comme les données d'OpenStreetMap sont libres, eh bien, même si en tant qu'utilisateur, en tant que développeur d'un site web, je fais appel à une entreprise qui va me donner accès à ces serveurs cartographiques, eh bien, si à un moment elle change ses conditions d'utilisation, une autre entreprise peut offrir le même service. Donc il y a une diversité de l'offre qui permet de ne pas avoir des acteurs en position dominante.
Et justement, en parlant de diversité, c'est un mot qui revient souvent dans le thème du libre et qui est très intéressant, puisque OpenStreetMap, c'est vraiment un exemple de diversité. Comme on l'a dit un petit peu avec Cédric, les intérêts des gens qui contribuent sur OpenStreetMap sont extrêmement divers et on va avoir des informations extrêmement précises sur des sujets très variés. Ça peut être effectivement, comme encore une fois le rappelait Cédric, des points de recyclage, des horaires de levée de poste, des choses comme ça qui ne se retrouveront pas nécessairement sur Google Maps. Et en particulier, comme le disait Tobias aussi, les zones de randonnée, les villages un petit peu plus petits sont relativement peu bien cartographiés par Google Maps et le sont beaucoup plus par les contributeurs. Donc c'est un lieu de diversité et de richesse, voilà, beaucoup moins centré sur
des informations purement techniques ou commerciales comme on en trouve particulièrement bien remplies sur Google Maps.
Il y a aussi encore un point peut-être qu'on peut évoquer avant de revenir peut-être un peu plus sur concrètement là encore tout ce qu'on peut faire autour d'OpenStreetMap, hein, mais cette comparaison on y tient aussi. C'est la question de ce que nous donne à voir l'application Google Maps et donc celle de la sélection, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une recherche sur Google Maps, eh bien de fait il y a une sélection qui est faite, alors qui peut être on peut imaginer ou observer un certain nombre de choses, mais ça peut être effectivement de décider de ne pas nous montrer un magasin parce qu'il est fermé. On est un petit peu encore dans ce que disait Quentin sur l'efficacité commerciale. On imagine que si l'on cherche l'adresse d'un magasin et qu'il est fermé, alors ça ne nous intéresse même pas de savoir où il est. C'est une hypothèse, on pourrait en émettre d'autres. Hein, aujourd'hui, sur effectivement, on pourrait imaginer que eh bien, les résultats de requêtes vont dépendre à un moment de pourquoi pas d'une contribution financière, des notions de publicité, de l'intérêt que portent les autres utilisateurs, la question du renforcement des requêtes fréquentes, etc. etc. Bref, y a l'idée générale, c'est qu'on dépend à un moment d'un algorithme, d'un moteur de recherche pour, eh bien, dans les résultats que l'on observe, alors que sur OpenStreetMap, eh bien, encore une fois, on pourrait avoir une diversité de moteurs de recherche qui font du coup des choix différents. Et puis, si des données, on l'a déjà dit, hein, sont absentes, eh bien, on peut toujours les ajouter. Je ne sais pas si vous voulez compléter un peu ce point, Quentin.
Oui, effectivement, c'est un très grand classique de chez Google, c'est d'expliquer globalement que... Enfin, c'est le mot un peu pertinence, c'est-à-dire on va présélectionner les résultats pour vous parce qu'ils seront plus pertinents pour vous, mais en quelque sorte, ça déresponsabilise et ça enlève du pouvoir à l'utilisateur qui va passer peut-être à côté de choses qu'il aurait aimé voir parce que Google a décidé que ça ne l'intéresserait pas à partir de l'ensemble des données qu'il a collecté sur lui, et en particulier pour ces histoires de « oh là là, on va réduire la charge cognitive de l'utilisateur parce que nous sommes bienveillants et qu'on prend soin de lui ». Sur OpenStreetMap, évidemment, on pourrait se dire « oui, mais s'il y a trop d'informations, on ne va effectivement pas réussir à trouver celle que l'on souhaite », mais là, c'est l'utilisateur qui est en situation de choix, puisqu'il peut lui-même appliquer des filtres et dire « voilà, j'aimerais voir ce genre de choses sur tel genre de critères », et ce n'est pas très difficile à configurer.
De cette précision, on va retourner là sur abandonner cette comparaison et retourner sur un petit peu ce qu'on peut faire avec OpenStreetMap, ce qui fonctionne bien, moins bien, peut-être qui fonctionnera mieux dans le futur petit à petit. Alors une question classique, c'est je reviens vers Tobias, la question du guidage par GPS. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions concrètes qui fonctionnent? Est-ce qu'elles sont aussi puissantes ou un peu moins puissantes? Où est-ce qu'on en est un peu autour de ça?
Justement, donc là-dessus, effectivement, donc il y a, on peut déjà utiliser des applications GPS. Donc la plus utilisée pour OpenStreetMap sur Android s'appelle OSMand. Elle est pas encore aussi précise qu'une application comme Waze de Google, par exemple, pour la simple raison que elle ne va pas. Enfin, la première raison, c'est que déjà, elle est incapable de prendre le trafic en temps réel. Et ensuite, les algorithmes de routage ne sont pas forcément toujours aussi performants. Après, elle propose un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple l'enregistrement des cartes hors ligne pour être en mesure d'effectuer du guidage quand bien même vous n'avez aucune connexion Internet. Après, il faut savoir aussi que bon nombre de GPS commerciaux utilisent aussi les données des cartes d'OpenStreetMap pour enrichir leur système de guidage. Donc c'est une solution qui actuellement existe, mais il faut pas. Mais encore une fois, OpenStreetMap est un écosystème, et donc le site que vous allez atteindre sur OpenStreetMap.org est entre guillemets un service minimal qui vous offre effectivement la carte et un système de guidage simplifié. Après, si vous voulez avoir accès, si vous voulez des services vous proposant des meilleurs guidages. Donc, par exemple, Cédric citait Quant Maps qui permet de faire une recherche d'adresse beaucoup plus pertinente que celle qu'on peut trouver sur OpenStreetMap. Ou à l'inverse, si vous voulez avoir beaucoup de fonctionnalités de guidage, de choisir votre véhicule, vos préférences et tout ça, vous pouvez par exemple vous orienter sur des services comme Open Route Service qui va vous permettre vraiment d'avoir un choix extrêmement fin sur les types de routes que vous voulez emprunter, le type d'efforts que vous voulez faire et tout genre de choses en fait.
Bah écoute, tu as déjà parlé d'écosystème, tu as commencé à nous citer divers sites. Alors effectivement, c'est aussi, quand on a utilisé beaucoup le mot diversité aussi, pluralité de diversité, c'est aussi une constante un petit peu des logiciels libres, c'est qu'on n'a pas un point d'entrée openstreetmap.org qui nous donnerait accès à tout, mais il y a effectivement un écosystème avec des gens qui se lancent, qui montent des projets. Alors t'en as cité quelques-uns, mais je crois que tu en as pas mal d'autres dans ta besace. Alors il y a pas mal de choses qui sont assez visuelles, donc on va pas tout voir, mais on va te laisser un peu nous faire l'article sur tout ce qu'il y a de rigolo, d'intéressant, de pertinent à l'intérieur de l'écosystème OpenStreetMap.
Justement, quand on commence à faire des recherches sur l'écosystème d'OpenStreetMap, on peut y passer des heures, voire des journées, si ce n'est des semaines. Parce que, donc, comme on le disait précédemment, OpenStreetMap, c'est vraiment la base de données de la cartographie. Et ensuite, un grand nombre de services vont utiliser ces données pour les valoriser et proposer des expériences très précises. Donc, on a déjà cité OpenRoute Service, qui vous permet de faire du routage très précis avec un grand nombre de paramètres. On a cité QuantMaps, qui vous permet de retrouver beaucoup plus facilement des adresses, des magasins, des choses comme ça. Cédric avait aussi cité HOT, qui du coup, en cas de catastrophe naturelle, va s'appuyer sur la communauté pour cartographier le plus rapidement possible la zone pour que les secours puissent arriver plus facilement et être plus efficaces. Et après, on a, comme il y a un nombre énorme d'informations dans OpenStreetMap, si vous prenez par exemple la carte de Grenoble, regardez juste le centre de Grenoble et vous allez voir un peu le nombre d'informations visuelles que vous pouvez déjà avoir. Et il faut savoir qu'il y a encore plein d'autres informations. Et par exemple, des services comme F4Map vont prendre toutes les données d'étages des bâtiments pour vous faire une visualisation 3D isométrique de la ville. Vous avez Open Level Up qui va vous donner si les bâtiments ont été cartographiés par étage, va vous donner une carte étage par étage de chaque bâtiment. Et vous avez aussi un très grand nombre de tuiles différentes, parce que un des gros problèmes que je trouve à Google Maps, c'est que la carte finalement n'indique pas énormément d'informations, et que si par exemple vous recherchez la forêt de Compiègne sur Google Maps, vous verrez juste un grand carré gris, vous ne verrez pas la limite, vous ne pourrez pas rapidement prendre la mesure de cette forêt juste d'un point de vue visuel, alors que beaucoup de services d'OpenStreetMap proposent ce qu'on appelle des layers, donc des visualisations différentes des données sous toutes les formes, qui permettent finalement d'avoir des cartographies vraiment précises et spécifiques à ce qui vous intéresse. Il y a aussi un site que j'aime beaucoup qui s'appelle maps.stamen.com et qui vous propose plein de cartes différentes, dont certains avec un rendu aquarelle ou des choses comme ça.
Ça, c'est ton côté artiste esthétique, Tobias.
C'est ça.
Juste, je commente un tout petit peu, parce que moi, je voyais les images en même temps que tu parlais. Tu nous as montré, effectivement, alors ça se voit moins bien à la radio, hein, j'en ai conscience, mais on mettra peut-être des copies d'écran, plus des liens sur le site. Mais tu nous as montré, effectivement, c'était F4Map, c'est ça, où on voyait Paris en 3D.
C'est ça, avec la Tour Eiffel.
Ouais, donc la Tour Eiffel. Donc là, tu précisais qu'il y a des... Non seulement on voit donc les bâtiments en 3D en fonction des données qui sont rentrées, mais il y a des utilisateurs qui ont pris la peine de faire la modélisation 3D de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, en l'occurrence de monuments de divers monuments de Paris.
Et de même, OpenStreetMap permet de cartographier les arbres, donc on a aussi, là où les arbres ont été cartographiés, des visualisations d'arbres donc qui rajoutent encore des informations.
Et sur l'autre chose aussi qui a attiré mon œil, là sur Open Level Up, on voyait toutes les salles du bâtiment Benjamin Franklin de l'UTC, c'est ça ? Tout a été cartographié aussi ?
C'est-à-dire que nous avons des gentils UTCiens contributeurs qui ont pris le temps de renseigner chacune des salles pour chacun des niveaux des différents bâtiments de Benjamin Franklin et de PG 1 et 2. Donc, si vous allez sur ce site, vous pouvez, par exemple, avoir la localisation exacte de n'importe quelle salle de ces bâtiments. Et il reste encore à faire le centre de recherche et le centre de transfert.
Ok. Mais donc, si un étudiant arrive en retard à un de mes cours bientôt, eh bien, qui me dit qu'il n'a pas trouvé la salle, je pourrais lui dire que là, l'excuse est non recevable. Je pense qu'on a fait, un tour d'horizon de cet écosystème, mais il y aurait eu encore beaucoup à en dire. Pour prolonger un petit peu tout ça, je crois que Picasoft va organiser quelque chose. Quentin, je te laisse nous annoncer cela.
Effectivement, c'est bien sympa, on a discuté pendant déjà une trentaine de minutes d'OpenStreetMap, mais comme disait Stéphane, c'est pas très visuel à la radio. Donc si c'est un sujet qui vous a intéressé et que vous voulez découvrir un petit peu plus en détail ou en image OpenStreetMap et son écosystème, eh bien nous organisons ce que Framasoft appelle un Contrib Atelier. C'est-à-dire un atelier ouvert à tous, où vous pouvez venir découvrir un logiciel libre, en l'occurrence ici OpenStreetMap, et y contribuer, donc par exemple en cartographiant certains éléments près de chez vous, votre adresse ou ce genre de choses. Et donc ce sera le 15 juin 2019 à 14h à la salle annexe 4 rue de la Surveillance à Compiègne. Et pour en savoir plus, vous pouvez tout simplement aller sur le site picasoft.net et à partir de là, nous envoyer un mail ou un message. Donc on fera simplement de la découverte d'OpenStreetMap, on regardera un petit peu les différents clients pour ceux que ça intéresse, et ensuite, on verra comment contribuer en pratique. On va continuer et même terminer l'émission avec le traditionnel quiz. On est très malheureux de ne pas pouvoir vous entendre nous répondre. Qui sera la suivante, donc quelle est la distance de l'itinéraire à pied entre le Théâtre Impérial de Compiègne et l'UTC ? On vous laisse chercher sur le client OpenStreetMap de votre choix et on se retrouve après la musique libre qui a été sélectionnée pour aujourd'hui, qui est Doumaya de Hicham Chahidi.
Bombay, Randa.
de retour pour la fin de l'émission La Voix Libre sur Graphite. Pour rappel, on vous avait posé un quiz qui consistait à chercher la distance de l'itinéraire à pied entre le Théâtre Impérial de Compiègne et l'UTC. Et la réponse est 1 km tout pile. Merci à Romain H pour la sélection de la musique. Maintenant, est-ce que Stéphane, tu veux peut-être conclure avec quelques liens, quelques recommandations ?
Eh bien, pour les liens, d'abord, on va mentionner qu'on a un site radio.picasoft.net qui a vu le jour et qui va notamment recenser ces liens de façon un peu plus pratique qu'à la radio. Mais on pourra retrouver donc l'interview de Cédric sur linuxfr.org. On invite évidemment tout le monde à se rendre sur openstreetmap.org. Un certain nombre d'autres liens que nous a préparé Tobias. Et je crois que tu voulais mettre en valeur en particulier Tobias. Je te laisse l'annoncer.
Effectivement, donc le lien c'est openstreetmap.fr/contribuer. Donc c'est l'association française d'OpenStreetMap qui vous propose un certain nombre d'initiatives pour contribuer, même si vous avez même si c'est une affaire de 30 secondes seulement.
Voilà. Eh bien, merci à toi pour ce dernier mot. Et au revoir.
Au revoir.